Vous imaginez-vous avec le nom qui signifie fou, un nom qui signifie fou, quelle attente auriez-vous de quelqu'un ainsi nommé? Voilà, je m'appelle fou. Lisons une vraie histoire dans l'Ancien Testament. Elle se trouve dans le livre de 1 Samuel, chapitre 25. Et nous allons lire des extraits au fur et à mesure de la prédication. Donc ce ne sera pas une lecture complète, mais un peu parcellée pendant tout le message. Et puis nous allons traiter ces extraits que nous allons lire. Mais il s'agit d'abord, avant de lire, il s'agit d'un couple. Et il s'agit de David, le roi d'Israël. Cette histoire met l'accent sur la sagesse d'une femme qui s'appelle Abigail. Et son mari était fou alors qu'elle était pleine de sagesse. Donc lisons l'histoire ensemble. Nous allons commencer avec les 9 premiers versets à partir du verset 1er où nous allons voir que David, le roi d'Israël, donc le contexte, David est en train, en fait, il est le roi d'Israël, il a été oint par Samuel, et il va devenir roi, mais entre-temps, il y a Saül qui est toujours le roi. Mais Saül, il dérive, et il ne suit pas, en fait, la voie du Seigneur. Et du coup, en fait, Saül en veut, en fait, à la vie de David. Mais voilà, nous allons lire, et puis, si je ne peux pas vous raconter toute l'histoire, ça c'est à vous de voir, peut-être cet après-midi ou dans la semaine. David d'abord s'attend à ce que Nabal ne manque pas à ses devoirs. Et vous allez comprendre pourquoi. Le titre du premier point, en fait, est comme ça. Lisons 1 Samuel, chapitre 25, verset 1er. Samuel mourut. Tout Israël se rassembla pour le pleurer et l'en enterra chez lui à Rama. Quant à David, il se leva et descendit au désert de Paran. Il y avait à Moan un homme très riche qui possédait des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 100 chèvres, c'est-à-dire il était très riche. Et il se trouvait à Carmel pour la tente de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal. Et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme pleine de bon sens et très belle. Tandis que son mari était dur et méchant dans sa manière d'agir. Il descendait de Caleb. Alors qu'il était au désert, David apprit que Nabal tendait ses brebis. Il envoie 10 jeunes gens vers lui en leur ordonnant « Montez à Carmel et allez trouver Nabal. Vous le saluerez de mon nom et vous lui direz « Longue vie à toi, que la paix soit avec toi, avec ta famille, avec tout ce qui t'appartient. » Maintenant, j'ai appris que tu as chez toi des tendeurs. Or, lorsque tes bergers étaient avec nous, nous ne leur avons fait aucun mal et rien ne leur a été volé durant tout le temps où ils étaient avec nous à Carmel. Demande-le à tes serviteurs et ils te le confirmeront. Ce que ces gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc à tes serviteurs et à ton fils David ce que tu as sous la main. Lorsque les hommes de David furent arrivés, ils répétèrent toutes ces paroles à Nabal, au nom de David, puis ils se turent. Nabal répondit aux serviteurs de David, « Qui est David ? Et qui est le fils d'Isaïe ? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent de chez leur maître. » Et je devrais prendre mon pain, mon bétail, que j'ai tué pour mes tendeurs, pour les donner à des gens qui sortent je ne sais d'où. Voilà. Jusque-là, l'histoire. Toute histoire évoque une certaine émotion, selon, plus ou moins forte, selon la façon dont cette histoire nous touche. Cette histoire nous présente David, se trouvant dans le besoin des vivres pour lui et pour ses compagnons alors qu'ils vivent en cachette vis-à-vis de Saül. Puisque Saül est roi, ils ne peuvent pas gagner leur vie sans la risquer. Donc, pendant qu'ils sont fugitifs, bien qu'ils n'aient commis aucune faute, ils cherchent l'aide d'un homme riche qu'ils ont aidé indirectement en protégeant ses biens des bandits quelconques. La simple présence de ces hommes, justes et redoutables, quant à leur compétence avec une épée par exemple, empêchait toute tentative de braconnage chez les bétails de Nabal. Et en plus, David et ses hommes n'ont rien pris de ses biens. Donc vous comprenez un petit peu l'histoire. Ils sont en cachette, mais ils habitent dans un territoire où Nabal a la plupart de ses biens. Et indirectement, ils protègent. Leur présence, en fait, évite qu'il y ait, en fait, vol, braconnage, etc. Pour David, s'attendre à ce que Nabal leur donne une aide en nature allait de soi. Aucun homme, juste en connaissance de cause, ne s'acquitterait pas de ses dettes dans ces circonstances. Mais nous verrons que ce n'est pas le cas de Nabal. Avant d'aller plus loin dans l'histoire, il me semble important de faire un lien entre le comportement de Nabal, que nous allons voir, et la réalité du comportement humain quant à ses devoirs vis-à-vis de Dieu lui-même. Nous allons en dire plus tout à l'heure. Deuxièmement, Nabal ne reconnaît ni sa tort ni la précarité que mène un tel comportement. Et nous allons lire dans les versets suivants à partir du verset 10. Je crois qu'on a lu verset 10, mais on va quand même répéter encore ce verset jusqu'au verset 22. Donc je vous invite à reprendre le texte. Nabal répondit au serviteur de David, « Qui est David et qui est le fils d'Isaïe ? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent de chez leur maître et je devrais prendre mon pain, mon eau, mon bétail que j'ai tué pour mes tendeurs pour les donner à des gens qui sortent je ne sais pas d'où. » Les hommes de David rebroussèrent chemin et repartirent et répétèrent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Alors David dit à ses hommes « Que chacun de vous prenne son épée. » Et ils prirent chacun leur épée. David aussi prit la sienne et environ 400 hommes montèrent à sa suite tandis que 200 restaient près du matériel. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigaïl, la femme de Nabal, « David a envoyé au désert des messagers pour saluer notre maître et celui-ci les a traités avec dureté. Pourtant, ces hommes se sont montrés très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun mal et rien ne nous a été volé durant tout le temps où nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. Ils nous ont nuit et jour servi de protection durant tout le temps où nous avons été avec eux pour garder les troupeaux. Maintenant, sache et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et toute sa famille est décidée. Lui-même est si méchant que nous n'osons pas lui parler. » Abigaïl prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 brebis toutes préparées, 5 mesures de grains rôtis, 100 gâteaux aux raisins secs et 200 aux figues sèches. Elle chargea tout cela sur des ânes et dit à ses serviteurs, « Passez devant moi, je vais vous suivre. » Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Montée sur un âne, elle descendit cachée par la montagne. David et ses hommes descendaient en face d'elle, de sorte qu'elle les rencontra. David avait dit, « C'est bien inutilement que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert et que rien de tout ce qu'il possède n'a été volé. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu traite son serviteur David avec la plus grande sévérité si je laisse en vie jusqu'au matin un seul homme parmi tous ceux qui appartiennent à Nabal. » Il est vraiment fâché. Vraiment. Nabal ne reconnaît ni sa tort, ni la précarité que mène son comportement. Les couleurs de Nabal se révèlent. Il ne méprise pas seulement la requête, mais l'homme en traitant David de malfaiteur en plus. David se met justement en colère contre de tels propos ingrats et injustes. Comme toute personne face à l'injustice qu'il atteigne injustement, il veut que justice soit faite et comme il avait les moyens de le faire lui-même, il s'apprête avec ses hommes et sans hésitation à régler les comptes. Qui oserait faire un reproche à David? Sa cause semble juste, surtout que Nabal se comportait selon son nom. C'est fou ce qu'il fait. n'est-il pas à mesure de se rendre compte de la précarité dans laquelle il se met? C'est un vrai insensé. Lorsque nous parlons de la foi chrétienne, nous avons tendance à éviter le côté mauvaise nouvelle qui est compris dans la bonne nouvelle. Je m'explique. Dans l'annonce de l'évangile, nous parlons de salut. Et c'est juste. Mais de quoi sommes-nous sauvés? De quoi sommes-nous sauvés? Le péché? Le monde? Le diable? Comment répondriez-vous? Peut-être je vais vous surprendre quand je dis que nous sommes sauvés de la colère qui s'est accrue contre nous à cause de notre péché. La colère de Dieu. Cette colère, c'est celle de Dieu lui-même. On aurait tendance de vouloir jeter la pierre à Abel, mais en le faisant, on serait probablement surpris qu'une fois la pierre lancée atteint sa cible, que ce n'est pas lui, mais un miroir qui renvoie notre propre image. Encore, nous allons en dire plus tout à l'heure. Lisons les versets 23 à 35 maintenant. Versets 23 à 35. Lorsqu'Abigaïl aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur son visage devant lui et se prosterna contre terre. Puis se jeta à ses pieds et elle dit, « C'est ma faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de te parler et écoute ses paroles. Que mon Seigneur ne prête pas attention à ce méchant homme, à Nabal, car il porte bien son nom. Il s'appelle Nabal et il y a chez lui de la folie. Quant à moi, ta servante, je n'ai pas vu les hommes que toi, mon Seigneur, tu avais envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton nom et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de verser le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis et ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient pareils à Nabal. Accepte ces cadeaux que moi, ta servante, je t'apporte à toi, mon Seigneur, et qu'ils soient distribués aux hommes qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne la faute de ta servante. En effet, l'Éternel accordera à mon Seigneur une maison stable, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel, et on ne trouvera jamais rien de mauvais chez toi. Si quelqu'un se dresse pour te poursuivre et en veut à ta vie, ton âme, mon Seigneur, sera bien gardée avec les vivants auprès de l'Éternel, ton Dieu. En revanche, il enverra au loin, comme avec une fronde, l'âme de tes ennemis. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé et qu'il t'aura établi chef d'Israël, mon Seigneur n'aura ni remords ni trouble dans son cœur pour avoir versé le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. David dit à Abigaïl, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens et béni sois-tu, toi qui m'as empêché aujourd'hui de verser le sang et qui a retenu ma main. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de faire du mal, est vivant. Si tu n'étais pas dépêché de venir à ma rencontre, il ne serait pas resté un seul homme à Nabal d'ici le matin. David prit ce que Abigaïl lui avait apporté et lui dit, « Monte en paix chez toi. Tu vois, je t'ai écouté et je t'ai bien accueilli. » Abigaïl intervient pour apaiser la colère de David et sa maison, du coup, est complètement sauvée. Entrez, Abigaïl. Elle savait le comportement de son mari. Très bien. Comment et pourquoi elle s'est mariée avec lui, on l'ignore. Mais elle était fidèle et sage. D'ailleurs, elle était belle et avait du bon sens. Ces deux caractéristiques chez une femme sont très agréables. Faites attention, vous les garçons, et choisissez bien une femme non seulement pour sa beauté, mais aussi pour son bon sens. Elle va probablement vous sauver la vie et même à plusieurs reprises. Et vous les filles, vous faites bien d'être belles, de vous faire belles. Mais la beauté n'est jamais un substitut pour le bon sens. Il y aura Il y a un proverbe qui dit « La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celui qui sera loué. » Voilà une vraie femme de valeur. On la voit dans la personne d'Abigaïl. Parce qu'elle est intervenue au bon moment pour sauver la vie de son mari et de toute sa maison. Elle est aussi pièce clé pour empêcher David de faire une erreur grave, qui aurait eu des répercussions graves, et cela pour le reste de sa vie. Pour elle, la chose la plus importante, c'était de faire confiance à Dieu pour la justice. Elle s'attendait justement que Dieu règle les comptes selon sa parfaite justice. Chose de ne pas manquer dans ce récit, c'est qu'Abigaïl est prête à prendre la faute de son mari. Et ça, c'est quelque chose. Nous avons ici un aperçu non négligeable d'une œuvre qui nous est chère et qui fait partie intégrale de la bonne nouvelle que nous chérissons. J'imagine maintenant que vous devinez un petit peu où je suis en train d'aller. Mais avant de tout dire, nous avons un dernier texte, ou extrait de texte à lire. Donc je vous invite à terminer ce chapitre à partir du verset 36 de 1 Samuel 5, 25. Pour voir la fin de l'histoire. Abigaïl arriva vers Nabal alors qu'il faisait un festin digne d'un roi dans sa maison. Il avait le cœur joyeux et était complètement ivre. Elle ne lui dit pas un seul mot jusqu'au matin. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'était dissipée et sa femme lui raconte ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devient aussi inerte qu'une pierre. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. David apprit que Nabal était mort et il dit « Béni soit l'Éternel. Il a défendu ma cause dans l'affront que m'a fait Nabal et il a empêché son serviteur de faire le mal. » L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. David envoya proposer à Abigaïl de devenir sa femme. Les serviteurs de David arrivèrent chez Abigaïl à Carmel. Ils lui dirent, « David nous a envoyés vers toi parce qu'il désire te prendre pour femme. » Elle se leva, se prosterna le visage contre terre et dit, « Voici, moi ta servante, je serai une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. » Abigaïl partit immédiatement montée sur un âne et accompagnée de 5 jeunes filles. Elle suivit les messagers de David et devint ainsi sa femme. Dans ces versets-là, nous trouvons Nabal complètement inconscient de la gravité de la situation dans laquelle il se trouve. Complètement inconscient. Il est ivre. La folie veut que nous ignorions le sérieux de notre vrai état. Mais Nabal ne reste pas inconscient longtemps. Lorsqu'il apprend des faits, il est bouleversé. Bouleversé et rendu littéralement immobile. En tout cas, le texte nous dit que Dieu le frappa 10 jours plus tard et qu'il meurt. La Bible dit que la vengeance appartient au Seigneur. David voulait se venger, mais Abigaïl est intervenue. David est conscient de l'injustice et capable de régler les comptes. David aurait pu faire justice de sa propre main, mais il aurait eu tort. Dieu entre au devant de la scène pour empêcher David et c'est Abigaïl qui l'utilise. Ce qui est intéressant, c'est que Abigaïl se trouve dans une situation complètement précaire. Je n'imagine pas qu'elle soit contente d'avoir un tel homme comme mari, surtout qu'il avait un mauvais caractère. Mais elle s'attendait à Dieu de voir son état et de répondre selon et avec sa compassion et justice. À cause de son acte héroïque, Abigaïl se trouve mariée, du coup, avec David lui-même. Pour elle, Dieu désigne une vie nouvelle avec le futur roi. Il n'est jamais inutile, ici, je veux dire, il n'est jamais inutile d'attendre Dieu. Malgré les circonstances difficiles, il vaudra toujours la peine de laisser la vengeance et son avenir à Dieu. Le bon sens est là, et la vie nouvelle d'Abigaïl en est la preuve. Maintenant, élaborons le lien entre cette histoire et l'histoire de la croix, de la bonne nouvelle que nous chérissons. Cette histoire ne cache rien, rien du tout. Les motivations et les comportements de chacun sont décrits. Cette histoire est comme un miroir par lequel on voit la réalité des manquements et des valeurs chez l'être humain. J'utilise cette histoire et les personnes y impliquées pour vous montrer par analogie ce que je crois être clairement enseigné par la Bible. Ce que je vais dire n'est pas l'interprétation du texte strictement dite, mais plutôt l'utilisation de ce texte comme une parabole. Écoutez bien cette comparaison. Si Nabal représentait l'être humain perdu et sans respect pour Dieu et pour tous les biens qu'il lui a apportés, et si David représentait la colère de Dieu contre quelqu'un qui le méprise, même après avoir bénéficié des biens que Dieu a pourvus librement et sans faute, et si Abigaïl représentait le Christ qui est intervenu à grand sacrifice pour apaiser la juste colère de Dieu, n'aurions-nous pas une image émouvante de ce que Dieu a réellement fait pour tout être humain à la croix? Il y a certainement un avertissement important pour l'être humain ici. Il est comme Nabal lorsqu'il pêche. Le péché, c'est de la folie. Le sort certain de ceux qui pratiquent le péché, c'est selon les Écritures, le jugement et la mort. L'homme en général se comporte de la même manière que Nabal. Il est égoïste, sans reconnaissance à Dieu, sans respect pour les autres. L'homme ne mérite que la défaveur de Dieu puisqu'il se moque de lui comme a fait Nabal vis-à-vis de David. Et pourtant, Dieu agit avec grâce. Il a envoyé son intervenant, Jésus-Christ, qui par son sacrifice a payé le dû du péché de l'homme. Et par la suite, l'homme peut être épargné de sa juste colère, et cela afin de vivre avec lui dans la paix et dans la joie. Mais faisons attention avec l'analogie, parce que l'histoire se passe mal pour Nabal. En fin de compte, il n'est pas sauvé, même si l'intervention d'Abigaïl détourne la colère de Dieu. Nabal est frappé quand même, d'abord par la crainte et puis par Dieu lui-même. J'ai dit tout à l'heure que Dieu entre au devant de la scène pour empêcher le malheur que David aurait fait à la maison de Nabal et que c'est Abigaïl qui l'utilise. Dans la réalité de notre état pécheur, il y a deux sorts possibles. Soit on change radicalement, soit on reste dans notre folie. Dieu a tout fait pour détourner sa colère juste contre les pécheurs par l'œuvre de son intervenant Jésus-Christ. Nabal ne tombe pas raide mort, mais immobile. Et lorsque nous rendons compte de notre folie à cause de notre péché et nous sommes frappés par la précarité de notre comportement, c'est justement là où nous sommes devant un choix. Soit de nous repentir, soit de vivre dans un état comme mort-vivant jusqu'à ce que la mort nous prenne définitivement, et cela avec le double malheur de devoir se rendre compte aussi à Dieu qui va juger les morts, comme l'Écriture dit. L'autre choix, bien sûr, c'est de recevoir le salut que Dieu nous pourvoit, et cela par quelqu'un qui aurait pu nous laisser périr. Abigaïl aurait pu laisser David se venger, mais par amour pour son mari et sa maison, elle agit. Dieu n'est pas contraint de sauver qui que ce soit. Mais la bonne nouvelle pour l'être humain, c'est que sa colère a été apaisée par l'œuvre de Jésus sur la croix. Si Dieu l'a fait, c'est par amour pour ceux qui sont faits dans son image et qui ont une valeur inestimable malgré leur mauvaise nature. C'est cette nature que l'œuvre de Dieu en Christ vise. Cela nous mène à la réalité de la nouvelle vie qui suit la réception du salut qui nous est tendu par la main véritable de Dieu. C'est intéressant de noter ce qui se passe pour Abigaïl. Du coup, elle est libérée de cet homme fou. Et en plus, elle devient libre de se marier avec David dans une relation la plus intime. Je vois cela comme portrait de l'intimité de notre relation avec Dieu lorsque nous renonçons à notre péché et marcher à sa suite. Mais vous allez me dire, si Abigaïl représente le Christ, comment pourrions-nous nous identifier avec elle dans cette histoire? Le comportement de l'être humain est plus comme celui de Nabal et pas comme celui de Abigaïl. Et je dirais qu'il faut prendre en compte notre compréhension de la personne de Jésus. À la fois, Abigaïl est comme nous et pas du tout comme nous. Elle est humaine comme nous, mais dans son œuvre, elle est comme Christ. Donc, elle n'est pas comme nous. Cela ne devrait pas nous surprendre parce que Christ lui-même est aussi comme nous et pas comme nous. Il s'est identifié avec nous en tant que Dieu, en devenant un être humain avec une chair semblable à la nôtre. Et c'est cela qui change tout. Christ pouvait à la fois s'identifier avec nous dans notre péché sur la croix et apaiser la colère de son Père à cause de sa nature divine. L'Écriture dit qu'il est devenu péché afin que nous devenions en Christ justice de Dieu. Jésus a pris notre péché sur la croix et a satisfait à la justice de Dieu. Cette œuvre permet à toute personne qui croit d'être transformée. Abigaïl ne pouvait pas faire ceci pour Nabal, c'est-à-dire changer la nature de cet homme, parce qu'elle n'était qu'humaine. Donc Nabal reste dans son état et il meurt. Par contre, Jésus peut faire cela pour le pécheur. Il est Dieu et homme en même temps. Il est à la fois le sacrifice qui apaise la colère de Dieu et le moyen par lequel l'ancienne nature peut être renouvelée. Jésus est à la fois celui qui, mourant sur la croix, se ressemble à Nabal, immobile sous le regard coléreux de Dieu jusqu'à sa mort, et qui ressemble à Abigaïl, qui réussit à apaiser cette colère afin qu'une vie nouvelle en résulte. Vous voyez le lien? Je termine avec la question suivante. Si Nabal représentait l'être humain perdu et sans respect pour Dieu et pour tous les biens qu'il lui a apportés, et si David représentait la colère de Dieu contre quelqu'un qui le méprise, même après avoir bénéficié des biens que Dieu a pourvus librement et sans faute, et si Abigaïl représentait le Christ qui est intervenu à grand sacrifice pour apaiser cette juste colère, n'aurions-nous pas une image émouvante de ce que Dieu a réellement fait pour tout être humain qui met leur espérance en Christ? Je crois que la réponse est oui. Je vous laisse répondre vous-même, pour vous-même aussi. Si vous dites oui, vous avez tous les éléments pour une espérance ancrée dans un amour insondable. C'est l'amour que Dieu nous montre en Christ. Seul cet amour est capable de transformer une vie perdue en une vie nouvelle. On pourrait penser que c'est presque de la folie que Dieu agisse de la sorte pour ceux qui l'ont méprisé. Mais, selon l'Écriture, la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Grâce soit rendue à Dieu pour cette folie qui nous sauve. Prions ensemble. Seigneur, nous sommes devant ce texte. Et c'est vrai, Seigneur, c'est une image émouvante de ce que tu as fait en Christ. Merci, Seigneur, de ce que tu as détourné ta juste colère sur nous. Et c'est en Christ que tout cela est tombé. Il est à la fois celui qui s'identifie avec nous dans notre péché et qui prend toute la colère, toute ta colère contre le péché, et qu'il expie sur la croix. Et plus que cela, il est ressuscité après cette mort terrible. Seigneur, aide-nous à contempler davantage cette réalité, ce salut qui nous est cher. Et aide-nous, Seigneur, pas seulement à être transformés par cette réalité, mais aussi d'être les porteurs de ce message à ceux qui ont besoin de l'entendre. Merci, Seigneur, de ce que Christ est mort en notre place, de ce que il est ressuscité pour notre justification. Et merci aussi, Seigneur, de ce que dès lors, lorsque nous croyons, nous avons une relation sûre et intime avec toi, le seul vrai Dieu, le roi de l'univers. Merci. Gloire à ton nom, au nom de celui qui est notre Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à chanter Rédempteur admirable. Et j'espère bien qu'on le chante avec cette image de ce héros qui est venu nous sauver. C'est le numéro 147.